Ben, je vous remercie de vous être déplacé ce soir. Vous savez, c'est quand même un exercice un peu périlleux que de vouloir intervenir comme ça à chaud sur une situation qui évolue rapidement. Une situation qui provoque des émotions fortes, tant chez certains politiciens que chez certains commentateurs. La tentation de vouloir inculper l'un ou l'autre des protagonistes pour la situation triste que traverse présentement l'Ukraine est grande. Et si vous le voulez bien, j'aimerais ce soir prendre un peu un certain recul pour mieux comprendre où nous en sommes, vers où nous nous dirigeons. Et pour ça, je propose de considérer un peu l'évolution générale de cette période de l'après-guerre froide. Donc, de revenir même sur l'héritage politique de Mikhaïl Gorbatchev, le principal architecte, il faut le rappeler, de cette ère d'après-guerre froide qui, selon de nombreux analystes, est en train de s'évanouir sous nos yeux. Donc, 25 ans après la chute du mur de Berlin, que reste-t-il de cette maison commune européenne qu'avait souhaité construire le dernier dirigeant soviétique? À mon humble avis, il y a deux principaux éléments de réponse à cette question-là. Deux éléments de réponse qui correspondent, paradoxalement, à deux évolutions parallèles complètement contradictoires. Le premier constat que je fais, qu'on peut formuler possiblement, c'est que la construction de la maison commune souhaitée par Gorbatchev s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Et j'irais même un peu plus loin, si on me permet de poursuivre dans la métaphore de l'habitation, j'ajouterais même que les fondations de cette maison commune sont même plus fortes que jamais. Alors, il faut rappeler les grandes lignes de cette nouvelle pensée de Gorbatchev, que Gorbatchev exposait au monde en 1987. C'était une pensée qui reposait, selon lui, sur un ensemble de conditions objectives qui s'étaient manifestées depuis la Seconde Guerre mondiale, à savoir que la survie de l'humanité était compromise par trois évolutions à l'échelle planétaire. La première étant celle de la dégradation de l'écosystème, la deuxième étant celle de l'agrandissement des écarts de développement entre le Nord et le Sud, et troisièmement, vous le savez, cette crainte-là très forte d'une possible confrontation thermonucléaire. Et pour lui, cette triple évolution-là était le socle sur lequel se développait sa pensée, une pensée d'un impératif d'une paix mondiale qui présupposait non seulement la coexistence de deux systèmes économiques rivaux, mais aussi une interpénétration très forte des économies socialistes et des économies capitalistes. L'URSS, la Russie, devaient construire ensemble un nouvel ordre international où l'équilibre des forces allait faire place à un équilibre des intérêts entre les acteurs. Mais il est frappant de constater à quel point cette pensée-là demeure aujourd'hui d'actualité. Le réchauffement de la planète, la paupérisation des régions du Sud avec les problèmes de réfugiés qui s'en entraînent, et bien sûr le problème de la prolifération nucléaire constituent des questions pressantes qui appellent encore aujourd'hui, je pense, à une intensification de la collaboration, de la coopération entre la Russie et l'Ouest. C'est dans ce sens que je dirais que les fondements de la maison commune européenne sont encore aujourd'hui importants. Alors, il faut dire que malgré les inconforts diplomatiques qui se sont manifestés depuis la disparition de l'URSS, le rapprochement socio-économique souhaité par Gorbatchev s'est poursuivi de telle sorte que la Russie est aujourd'hui, il faut le rappeler, le troisième partenaire commercial de l'Union européenne avec des échanges commerciaux qui totalisent pour l'année 2013 pas moins de 417 milliards de dollars américains. Alors, il y a aussi une dimension socio-culturelle à ce rapprochement. Les Russes ont été en 2013, ils ont fait près de 7 millions de demandes de visa pour l'espace Schengen. On a entendu récemment Poutine dire qu'il souhaitait réduire le pourcentage des productions cinématographiques hollywoodiennes dans les salles de cinéma russes. Actuellement, c'est près de 70 % des productions, des projections cinématographiques en Russie qui sont des productions américaines. Donc, cette interpénétration socioculturelle-là est très forte. Il faut souligner, en terminant aussi, l'interpénétration financière qui s'est développée depuis 25 ans. En 2013, la Russie s'est même hissée au troisième rang en tant que récipiendaire des investissements directs étrangers, des investissements qui totalisent 94 milliards pour l'année 2013. Et les sorties de capitaux russes ont totalisé en 2013 pas moins de 60 milliards de dollars et c'est l'Europe qui principalement bénéficie de ces sorties de capitaux russes-là. Donc, cette interdépendance économique-là est très forte et compte tenu du coût important que l'Occident devrait payer advenant une escalade de sanctions économiques. Les pressions sont très fortes auprès des chancelleries occidentales pour que ces menaces de sanctions économiques demeurent lettre morte. Si les conséquences de l'annexion de la Crimée en inquiètent certains, on pourrait peut-être être tenté de suivre le conseil qu'a livré le sous-ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Ryabkov, en nous disant « Inquiétez-vous pas, les Occidentaux, si vous êtes stressés, allez faire un peu de yoga, écoutez des sitcoms, tout va continuer, business as usual. » Donc, cette maison-là commune, dans un premier temps, me semble se poursuivre, mais on peut formuler aussi un deuxième constat, beaucoup plus inquiétant, à l'effet que la maison commune européenne est en train de s'effondrer à toute vitesse, comme si un défaut architectural majeur avait compromis l'ensemble des travaux effectués depuis 25 ans. Alors certes, l'équilibre entre les besoins énergétiques de l'Europe d'une part et les besoins en capitaux de la Russie d'autre part a permis, je l'ai dit, une forte interpénétration économique entre les deux pôles. Force est d'admettre que cette collaboration-là ne s'est pas étendue aux États périphériques sur lesquels circule et transite la plus grande partie des exportations russes. Et au cœur de cette bataille pour le contrôle de l'approvisionnement énergétique européen se trouve bien sûr le Bélarus et l'Ukraine. Alors, au Bélarus, quelques mots, il aurait fallu des années, en fait, à la Russie, des années de pression économique pour infléchir la position du régime en place et la contrainte de vendre, finalement, à la Russie, c'est survenu en 2008, 50 % des actions du transporteur gazier Beltransgaz. Toutefois, en échange d'une étroite collaboration militaire, Moscou a jusqu'ici toléré les velléités autonomistes du régime du président Loukachenko, qui a pu conserver un fort niveau de contrôle sur son infrastructure économique locale. Or, en Ukraine, la situation est fort différente dans la mesure où Kiev a plutôt tenté de contrebalancer les pressions de Moscou en menaçant à plusieurs reprises d'adhérer à l'Alliance transatlantique, un jeu qui a dangereusement exacerbé les tensions géopolitiques. En jouant de la carotte et du bâton, Gazprom a tenté, mais n'est jamais parvenu à prendre le contrôle du système de transport gazier ukrainien. Mais il faut dire qu'il n'a pas non plus perdu le contrôle aux mains d'intérêts économiques occidentaux, c'est-à-dire que c'est le gouvernement ukrainien qui continue jusqu'à maintenant de contrôler Naftogaz Ukraine, qui est le transporteur gazier ukrainien. Toutefois, avec la chute du gouvernement Yanukovych, la menace de perdre le contrôle du système de transport gazier aux mains d'intérêts économiques occidentaux est d'autant plus forte que l'offre de prêts que le Fonds monétaire international a fait aux nouvelles autorités à Kiev à une hauteur de 18 milliards et conditionnel à la privatisation du transporteur gazier. Alors, d'une certaine façon, je vous dirais qu'on pourrait résumer la situation actuelle en disant que les tractations de la Russie qui visent à fédéraliser l'Ukraine peuvent en quelque sorte être vues comme une tentative d'empêcher que le contrôle du réseau de distribution de gaz en Ukraine lui échappe complètement. Bien entendu, les rivalités économiques ne seraient pas aussi alarmantes si elles ne se déroulaient pas sur un arrière-fond de tensions militaro-stratégiques qui n'ont cessé de s'accroître depuis la fin des années 1990, notamment depuis l'attaque de l'OTAN contre la Yougoslavie. Alors, sans refaire toute l'histoire des processus, des vagues d'élargissement de l'OTAN ou des efforts américains visant à déployer un bouclier de défense antimissile en Europe, il faut souligner que la stratégie de Washington visant à encercler militairement la Russie pour ainsi contenir toute velléité de renouveau impérialiste, a complètement anéanti les espoirs et les ambitions initiales de Moscou en faveur d'un rapprochement militaro-stratégique. Compte tenu des liens historiques qui unissent l'Ukraine à la Russie, Moscou considère comme étant un peu l'insulte suprême les efforts de l'OTAN, de l'Union européenne, dont Jacques a parlé un peu, visant à attirer l'Ukraine dans son giron. Et Moscou se montre manifestement plus déterminé que jamais à remettre l'OTAN à sa place. Alors, dans mesure où à Moscou, on perçoit, avec les ratés des interventions en Ukraine, en Libye, en Afghanistan, et surtout dans le dossier syrien, un affaiblissement de la puissance européenne, Moscou estime que c'est présentement le temps de renégocier à son avantage le rapport de force, son rapport de force avec l'Ouest. Alors, l'annexion de la Crimée, pour moi, n'est pas simplement une avancée, un coup de force, une avancée géopolitique locale. Elle représente pour Moscou l'occasion de démontrer à l'ensemble de la planète sa capacité de résister contre le dictat de l'hégémonie américaine. Il s'agit ni plus ni moins, je pense, de son coming out comme puissance, nouvelle puissance révisionniste. Après avoir traversé une très décevante période occidentaliste au début des années 90, il est de plus en plus clair que la quête russe d'une identité post-soviétique est en train de se cristalliser sous la forme de cet aigle, à deux têtes, le vieux symbole byzantin qui avait été récupéré par le tsar Ivan III au 15e siècle et qui a été formellement réhabilité comme armoirie officielle de la Russie par Boris Yeltsin en 1993, suite à la crise constitutionnelle, que cet aigle-là à deux têtes est véritablement en train de devenir la source d'inspiration et de légitimation idéologique du pouvoir russe. Alors, il y a une de ces têtes qui regarde vers l'Est, en direction de tous ces petits peuples de l'Eurasie, qui, si l'on en croit, en tout cas le géopoliticien gourou du président Poutine et de l'état-major des services de sécurité, notre ami Alexandre Dougine, serait un peu victime de cette influence culturelle, individualiste, marchande, qui est portée par ce qu'appellent les peuples de la mer, donc ce qui est porté par essentiellement aujourd'hui l'Alliance transatlantique. Depuis la réélection de Poutine à la présidence, on s'aperçoit que la Russie reprend même de plus en plus explicitement le flambeau de cette lutte, de cette résistance-là contre ce qu'on considère à Moscou être la dégénération morale, j'oserais dire sodomite même, de l'Occident. De l'autre côté, l'aigle regarde vers l'Ouest. Seulement l'Ouest, pour la Russie, c'est ni Washington, encore moins Bruxelles, qui est une espèce de non-lieu de pouvoir, mais bien en direction de Rome. En effet, le régime regarde actuellement d'un œil de plus en plus favorable la perspective de renouer avec sa tradition impériale, son héritage civilisationnel chrétien. Alors, on a vu d'ailleurs l'importance des curés, des prêtres orthodoxes dans les confrontations sociales présentes en Ukraine. Ce projet-là, qui n'est pas sans nous rappeler un peu le vieux fantasme de faire de Moscou une troisième Rome, donne à la maison commune, au projet de maison commune s'étendant de Lisbonne à Vladivostok, une allure complètement inacceptable, inadmissible pour Washington. Et on ne peut que constater sous cet angle qu'un nouveau mur qui est en train de s'ériger entre les ex-superpuissantes et que la maison commune, finalement, est devenue une espèce d'impossibilité métaphysique. Alors, en guise de conclusion, je vous dirais tout simplement, et c'est même une conclusion assez banale, que la tension dialectique entre ces deux évolutions complètement contradictoires nous place dans une situation hautement chaotique, complètement imprévisible, qui appelle très certainement non seulement à la réflexion, mais aussi à une très grande prudence. Parce que l'annexion de la Crimée a provoqué, je pense, une transformation inouïe de notre environnement discursif. L'association mentale entre Poutine et Hitler est désormais omniprésente. Vous irez faire un hashtag sur Twitter, Poutler, vous allez voir la quantité de... et d'une façon encore plus inquiétante, la menace nucléaire a été à nouveau brandie par des figures politiques et médiatiques de renom, parmi lesquelles, vous l'avez entendu, Sarah Palin. La seule façon d'arrêter, « The only way to stop a bad guy with a nuke is a good guy with a nuke ». On a entendu de façon encore plus inquiétante Dmitri Kisseliev, qui dirige aujourd'hui la méta-agence d'information russe, qui a rappelé au monde que la Russie était le seul pays capable de réduire l'Amérique en poussière radioactive. Alors, ce qui émerge sous nos yeux, c'est, je pense, un nouveau système international dont la principale caractéristique découle de la levée du tabou de l'intangibilité des frontières étatiques. Et dans notre jargon théorique des relations internationales, Je pense qu'il n'est pas exagéré d'affirmer qu'on assiste présentement à la réémergence de la culture obésienne. Ainsi, j'aurais tendance à dire pour que de poser cette question qu'on pose ce soir concernant l'avenir de l'Ukraine et l'avenir de l'ordre international européen, que cette question-là se résume essentiellement à poser la question de la place et du rôle d'un nouvel empire dans un tout nouveau système international. Or, sommes-nous prêts à payer le prix énorme d'une désintégration de la maison commune qui s'est construite depuis 25 ans pour tenter de provoquer l'effondrement du projet géopolitique porté par la Russie de Poutine? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt tenter de collaborer, d'accepter cette puissance révisionniste et tenter avec elle de répondre aux mêmes questions pressantes qu'avait soulevées Gorbatchev il y a 25 ans concernant la menace de la survie de l'humanité sur notre petite planète? Évidemment, les avis sont très partagés. Le débat promet d'être houleux, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que l'issue de ce débat-là sera certainement déterminante pour la suite des choses. Merci.